Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Elle a fait bugger tic, toc, tic, toc. Elle est parfaite, elle est type, top, type.
Bonjour à tous. Les réseaux sociaux au cœur de la campagne pour les élections européennes, y compris TikTok, l'application chinoise de partage de vidéos très courtes. Elle fait les grandes heures des forces populistes sur le continent qui ont très tôt compris tout le bénéfice qu'elles pouvaient en tirer. À Bruxelles, c'est plus compliqué. On pourrait parler de paradoxe TikTok. D'un côté, les institutions, le Parlement, plusieurs eurodéputés ne rechignent pas à se montrer sur ce réseau très prisé des jeunes. De l'autre, la Commission européenne veut réguler un réseau social accusé d'aspirer les données de ses utilisateurs et surtout d'être un vecteur de l'ingérence étrangère, voire chinoise. À Bruxelles, le reportage de Jean-Jacques Herry.
C'était il y a 15 mois. La Commission européenne interdisait l'utilisation de l'application chinoise TikTok à tous ses fonctionnaires et ses employés. Écoutez l'une des porte-paroles de la Commission, Sonia Gospodinova, lors d'un point presse le 23 février 2023.
La mesure vise à protéger la Commission d'éventuelles menaces en matière de cybersécurité et contre des actions qui pourraient exploiter certaines brèches afin de mener des cyberattaques contre la Commission.
Quelques jours après, le Parlement européen suivait la même voie pour les mêmes raisons. Des soupçons d'espionnage. Pourtant, un an plus tard, en février dernier, un nouveau compte est apparu sur TikTok.
Yes, the European Parliament is on TikTok.
Une première vidéo d'introduction de 17 secondes seulement, où une jeune femme annonce derrière un pupitre la naissance du compte TikTok du Parlement européen. L'ambition est aussi claire que le hashtag qui s'affiche « Use your vote », exprimez votre voix. En parallèle, apparaît un deuxième compte.
Salut, je suis sur TikTok, c'est mon premier poste. Je suis Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. Je veux vous demander d'aller voter.
Le compte institutionnel poste régulièrement des courtes vidéos feel good dévoilant les coulisses du Parlement européen.
Vous entendez ? Ça sonne pour prévenir les députés que la session plénière va commencer.
Et rappelons l'échéance des élections et l'importance de voter.
Je suis Adela et j'ai déjà voté deux fois.
Yo, c'est Philippe. Et j'ai déjà voté. Laissez-moi compter. 20, 30 fois. Peut-être plus. Au moins 5 fois aux élections européennes.
Roberta Metsola, elle, offre l'image d'une dirigeante sympathique et accessible, capable de déguster des gaufres à Bruxelles.
Je vous offre une gaufre ?
100 calories ?
Bien sûr. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez.
Merci.
Mais aussi de se tenir aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev.
Votre force incarne ce que veut dire être européen. Et je suis reconnaissante d'être à nouveau avec vous à Kiev.
Aujourd'hui, le Parlement compte presque 31 000 abonnés et Roberta Metsola 3 500. Alors pourquoi un tel revirement concernant TikTok au point de l'utiliser pour sa propre communication ? Écoutez la réponse de la présidente du Parlement européen lors d'une interview accordée à nos confrères d'Euronews.
Ce que je ne veux pas, c'est que les jeunes s'informent avec ce qui est potentiellement de la propagande ou via des sources douteuses. Alors on s'est dit, on y va. Et j'espère qu'en scrollant, un de ces jeunes sera intéressé et se dira, oui. Je vais voter.
Le cabinet de Roberta Metsola et le service de presse du Parlement assurent que toutes les règles de cybersécurité ont bien été respectées pour la mise en place de ces comptes. Quant à l'enjeu d'être sur TikTok, on le comprend un peu mieux en interrogeant Xavier Degros, consultant en marketing digital.
Avec 142 millions d'utilisateurs en Europe, dont 50% ont moins de 35 ans, il est logique que les députés, le Parlement, s'emparent de cet outil, d'autant qu'il y a énormément de primo-votants et qu'on sait que TikTok a une faculté d'influence plus forte encore chez les 16-24 ans que chez les 25-34.
Et puis, il y a aussi un autre enjeu, selon lui, car se faire entendre et se faire voir sur TikTok, c'est aussi aller sur un terrain où les extrêmes étaient jusque-là les plus présents. En témoigne le nombre d'abonnés de Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Ils sont 1 300 000. Et cela peut avoir son importance dans un pays comme la France, par exemple, où 15% des jeunes de 18-24 ans utilisent TikTok pour s'informer, selon le dernier rapport annuel de l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme.
La grosse différence entre TikTok et les autres réseaux sociaux, c'est essentiellement la puissance de son algorithme. Très intéressant pour les partis extrêmes en particulier. Pourquoi ? Parce que TikTok va en réalité viraliser les vidéos bien au-delà du cercle de followers d'un compte. On peut devenir influenceur, influenceuse TikTok avec 5 followers et avoir des millions de vues dès sa première vidéo. Il y a un effet démultiplicateur énorme que les autres plateformes ne peuvent pas proposer. Et donc forcément que la tentation est grande, mais je note quand même que tous les députés n'y sont pas, loin de là.
Raphaël Glucksmann, par exemple, a fermé son compte en janvier dernier. Une question de cohérence, dit celui qui a présidé la commission spéciale du Parlement sur l'ingérence étrangère. Quant à Ursula von der Leyen, candidate pour un nouveau mandat à la tête de la commission, elle n'a pas de compte TikTok, n'y fait pas campagne. Et récemment, elle disait même ne pas exclure une interdiction de TikTok en Europe, ce que confirme son équipe de campagne.
C'est précisément une volonté que Chega tem nesta campagne électorale. Colocar o tema da imigração e da imigração descontrolada nos grandes debates, quer sobre a Europa.
Au Portugal, le parti d'extrême droite Chega, qui a fait une percée lors des dernières législatives en mars, pourrait pour la première fois rentrer au Parlement européen. Son leader, André Ventura, a mis la question de l'immigration au centre d'un programme qui emprunte beaucoup au Rassemblement national français. Une surprise dans un pays qui compte certes 800 000 étrangers pour 10 millions d'habitants, mais un pays multiculturel dans lequel le racisme n'a jamais été un sujet, à moins que cela ne change. Reportage à Lisbonne de Marilyn Darcy.
Dans un Portugal connu pour être plutôt tolérant, la montée du Chega, le parti d'extrême droite, qui a élu 50 députés aux dernières législatives du mois de mars, les critiques sur les immigrés se disent au grand jour. Emmeline, rencontrée à la terrasse d'un café de Lisbonne.
On voit bien ce que devient le Portugal. Une boutique se libère, qui la loue? Eh bien, c'est l'Indien. Bon, je n'ai rien contre les gens, hein, mais je me demande bien d'où vient l'argent. Nous, on n'arrête pas de payer des impôts, mais eux, rien du tout. C'est une plaisanterie, on se tue au travail. On n'a rien. Maintenant, ils volent dans la rue. Ce sont des voleurs.
9,1% des Portugais se disent préoccupés par l'immigration. Ils étaient 0,9% il y a 5 ans. Les immigrés sont 800 000 aujourd'hui et ils sont devenus essentiels à l'économie portugaise. Frederico Pinheiro Chagas dirige une entreprise de floriculture en Algarve, au sud du Portugal, où il emploie plus d'une centaine d'immigrés. N'adhère pas aux thèses du Chega, mais insiste sur les conditions d'accueil à mettre en place.
Je trouve très bien qu'il y ait des contrôles pour que les choses fonctionnent dignement. Il faut qu'on soit sérieux et pas démagogue. C'est clair, j'ai besoin des gens, mais il faut qu'ils soient bien traités. Les plantes sont des marchandises, pas les gens.
Mercadorias são as plantas.
Já provou que não serve.
Agriculture, services, tourisme, la contribution de la main-d'œuvre étrangère est importante et le Chega ne rejette pas officiellement l'immigration. Mais il veut des quotas et des contrôles renforcés. Le député d'Algarve, João Graça, du parti Chega, sur un marché d'Algarve.
Oui, on veut une immigration contrôlée. Nous avons besoin que les gens viennent travailler, mais pour autant, il n'est pas question de faire une politique de porte ouverte pour découvrir après coup que ces personnes ne sont pas des réfugiés et qu'elles sont victimes de trafic humain. Il faut avoir le courage d'ouvrir ce chapitre et d'en parler.
Le Chega est proche des thèses du Rassemblement national de Marine Le Pen en France. Ricardo Marchi, chercheur à l'Université de Lisbonne.
Il tient un discours sécuritaire et légaliste en ce qui concerne l'immigration illégale et un discours clairement culturaliste en ce qui concerne les communautés islamiques au Portugal et en Europe en général. Mais il n'y a pas de revendication d'un Portugal blanc, car il sait très bien que malgré tout, la société portugaise est multiraciale en ce moment et qu'il n'y a pas de problème avec ça.
Pour la première fois, l'immigration est devenue une question importante dans les débats en vue du scrutin européen. Rita Matias est députée du Parlement national, mais n'est pas candidate au scrutin de dimanche. Par sa jeunesse et son implication sur les réseaux sociaux, elle a contribué à diffuser les thèses du parti radical. Et les positions de cette catholique traditionnaliste sur l'Europe sont claires.
Nous voulons porter notre voix au Parlement européen et renforcer celles qui y sont déjà et travaillent dans notre sens. Nous voulons donner la priorité à des dossiers dont malheureusement le politiquement correct nous tient éloignés. L'immigration qui augmente beaucoup et commence à remettre en question le mode de vie portugais, la question des droits droits de la femme sans que nous soyons sous la coupe de la gauche sur ces questions. Tout ça, nous voulons en parler. Et nous allons être une pièce fondamentale de la représentativité des Portugais.
Sécurité, patriotisme, nationalisme, le discours est calqué sur celui du groupe parlementaire Identité et démocratie de l'extrême droite, mené par Marine Le Pen, que le Chega espère rejoindre le 9 juin prochain. Il n'a pour l'instant aucun député au Parlement de Strasbourg. Le gouvernement de droite, quant à lui, annonce un programme durcissant les règles d'entrée sur le territoire portugais.
Les crises politiques s'enchaînent en Bulgarie depuis l'éclatement de la coalition entre le parti centriste et le parti conservateur GERB. La vice-première ministre Maria Gabriel n'a pas pu accéder au pouvoir. Les Bulgares vont donc retourner aux urnes pour la sixième fois en trois ans, cette fois pour élire leur parlement, leur gouvernement et leurs eurodéputés. Maria Gabriel, candidate pour le parti GERB, justement, était de passage à Paris, invitée par l'Institut Jacques Delors. Elle nous explique pourquoi la Bulgarie, essentielle pour aider l'Ukraine grâce à son industrie d'armement, doit retrouver sa place au sein de l'Europe.
Le grand enjeu, c'est qu'une fois les élections finies, quelle sera cette majorité stable qui pourra de nouveau affirmer le rôle de la Bulgarie dans l'Union européenne, de sorte qu'elle puisse défendre la place qui est la sienne, c'est-à-dire dans cette partie du sud-ouest, n'oublions pas la Bulgarie et frontières externes de l'Union, les relations avec la Turquie, l'agression russe en Ukraine ont soulevé l'importance stratégique de la région de la mer Noire. Il y aura toute la question liée à la défense. La Bulgarie fait partie de ces pays importants qui ont une industrie de défense, même si on n'en parle pas beaucoup. Donc les enjeux auxquels l'Union européenne va faire face vont avoir comme partie la Bulgarie et qui pourra aussi faire partie de ceux qui bénéficient des solutions qui vont être proposées.
La Bulgarie stable, je crois que c'est le slogan de votre parti. On en est encore loin, puisqu'on fait face quand même à un paysage politique extrêmement fracturé.
Le paysage est fracturé. Néanmoins, on peut dire aussi qu'il y a quand même une majorité de forces démocratiques, des forces qui partagent les valeurs européennes, l'adhésion de la Bulgarie dans l'Union européenne dans le temps. Maintenant, on ne peut plus avoir la majorité à un seul parti. Ce n'est plus possible. Il faut faire face à la réalité, mais cela implique aussi le dialogue, le compromis, la confiance. D'autre part, il y a aussi le parti Vozvratne, qui est l'un parti pro-russe, qui clairement se positionne aussi sur une ligne anti-européenne. Donc ce parti-là gagne du terrain parce que l'alternative en face, elle est fragmentée. Elle ne fait pas un bloc commun qui puisse parler d'une seule voix pour montrer les effets bénéfiques et du Schengen et de la zone euro et d'une Europe qui est capable d'assurer sa sécurité.
Mais y a-t-il un risque qu'il y ait une autre coalition qui ne sera pas celle avec GERB et qui inclut justement des partis pro-russes ?
Ça sera la responsabilité de celui qui décide de la faire. GERB ne fera pas une coalition dans laquelle le parti pro-russe puisse faire partie. Pour nous, les possibilités sont uniquement avec les partis qui partagent les valeurs euro-atlantiques et avec lesquels on a le même regard sur les principaux enjeux qui aujourd'hui sont liés à notre adhésion dans l'Union européenne et l'OTAN.
Diriez-vous que plus que jamais, depuis la guerre en Ukraine, la question russe est une ligne de partage extrêmement importante entre tous les partis en Bulgarie?
Je pense en effet que c'est une ligne de démarcation. On doit respecter la diversité au sein de la société bulgare, mais quand on parle de la direction du parti, de la place de la Bulgarie dans l'Union européenne comme un partenaire fiable, notre ligne est très claire. Soutien à l'Ukraine, parce que le soutien à l'Ukraine, c'est véritablement défendre nos valeurs, c'est notre propre sécurité. Être aligné avec les principales solutions que l'Union européenne veut offrir aux défis du monde, que ce soit du commerce, migration, sécurité, défense, innovation, c'est aujourd'hui une véritable ligne sur laquelle on ne voudrait pas apporter une division supplémentaire au sein de la société.
L'influence russe reste toujours très forte en Bulgarie, d'où l'existence de tous ces partis pro-russes.
L'influence reste très forte et il ne faut pas la sous-estimer parce qu'aujourd'hui, la désinformation, les attaques hybrides, l'ingérence étrangère ce sont des phénomènes qui ne connaissent pas de solution miracle. C'est pour cela qu'on a besoin de pouvoir travailler avec les autres pays au sein de l'Union européenne. C'est pour cela qu'on a besoin de véritables stratégies, comment on adresse ces questions-là au sein de la société, dans la région de la mer Noire.
En quoi les multiples crises politiques qui ont secoué la Bulgarie l'ont empêché d'avoir son vrai rôle, notamment vis-à-vis de la Russie et de la guerre en Ukraine, vis-à-vis de l'Europe? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, la Bulgarie, si elle avait été plus stable?
Il n'y a pas eu d'impact sur le rôle de la Bulgarie pour l'Ukraine. Depuis le début, la Bulgarie fait partie de ces pays qui ont le plus soutenu l'Ukraine. Ce n'est pas un hasard qu'on a une industrie de défense. Donc aujourd'hui, l'enjeu, ça reste que la Bulgarie fasse partie de cette Europe qui décide de se doter d'une véritable base industrielle de défense pour que la Bulgarie, avec la place forte qu'elle avait et qu'elle n'a pas encore perdue, puisse, avec l'innovation, avec des écosystèmes, des start-up, la recherche, puisse véritablement se positionner pour assurer la sécurité de tous les Européens dans cette partie de l'Europe. Et évidemment, pour moi, ce qui est très important, c'est que la Bulgarie puisse véritablement avancer pour la zone euro et Schengen. On est tous parfaitement conscients à quel point on a besoin de ne plus être autour de la table, mais de pouvoir participer à la discussion et de prendre des décisions importantes qui sont maintenant liées à notre propre compétitivité.
Maria Gabriel, ex-vice-première ministre de Bulgarie. C'est une héritière atypique. Marlène Engelhorn, germano-autrichienne, s'est fait connaître en militant pour la justice fiscale. Aujourd'hui, elle demande à un panel de citoyens de décider comment utiliser au mieux 25 millions d'euros de sa fortune. Notre correspondante à Vienne, Céline Béal, a pu la rencontrer.
À 32 ans, Marlène Engelhorn est très connue en Autriche. En tant qu'héritière d'une grande fortune, mais aussi parce qu'elle a annoncé en 2021 vouloir faire don de 90% de son héritage. En mars, elle a ainsi confié 25 millions d'euros à une assemblée citoyenne. 50 membres doivent maintenant décider d'un emploi caritatif à faire de cet argent. Marlène Engelhorn, qui a suivi une scolarité au lycée français, conçoit cette initiative comme un coup médiatique.
La répartition des richesses, ça c'est la question qui vraiment me tient à cœur, parce que c'est pas seulement mon problème privé, c'est un problème public. Et pour le discuter de manière publique et démocratique, à mon avis, une assemblée civique est vraiment un instrument très très intéressant qui peut aider à agrandir ce discours, à le rendre plus transparent, plus participatif, inclusif.
La Viennoise milite avec d'autres millionnaires pour une plus forte imposition des grands patrimoines au nom de la justice sociale. Car l'Autriche ne connaît ni impôt sur la fortune, ni même droit de succession. Marlène Engelhorn rejette la philanthropie classique qu'elle trouve trop paternaliste. Elle défend la démocratie participative.
Je voulais quelque chose qui démontre que nos instruments démocratiques fonctionnent et qu'il faut leur faire confiance et qu'on peut seulement le savoir à travers l'action et qu'il faut essayer et que la démocratie c'est une pratique et si on ne pratique pas cette démocratie on va la perdre.
Les 50 membres de l'Assemblée ont été sélectionnés de manière représentative à partir d'un tirage au sort dans le registre de l'état civil. Ils ont passé 6 week-ends ensemble à Salzbourg, accompagnés d'experts et sont rémunérés pour leur participation. Céline Isar participe à ces consultations pour l'instant secrètes.
Mes parents me posent aussi des questions. Alors, qu'est-ce que tu as appris et où va aller l'argent?
Cette puéricultrice de 30 ans qui vit en périphérie de Vienne explique qu'il n'est pas si facile de décider alors que de nombreux projets mériteraient d'être financés.
25 millions, c'est beaucoup d'argent. Pour moi, personnellement, c'est même vraiment beaucoup d'argent. Mais quand on veut faire le bien, changer les choses, peut-être même durablement, alors là, 25 millions sont vite engloutis. Ce n'est pas si facile de redistribuer cet argent.
La puéricultrice confie tout de même, s'il n'en tenait qu'à elle, elle investirait l'argent dans l'éducation. Comment tranchera l'Assemblée citoyenne? Réponse ce dimanche 9 juin pour les Autrichiens, impatients de savoir.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur l'application Pure Radio. À demain.